dans les coulisses de Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe Ralf Denk au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur le Tour de France. Vous avez des questions pour Ralf Denk? Envoyez-les à tobias.ruf@ovbmedia.de. Et maintenant, profitez bien de ce nouvel épisode.
4e étape, 4 cols et 40 degrés à l'ombre. Le chemin vers Foix a été exigeant pour les coureurs. Un grand groupe de têtes s'est formé tôt, avec notamment Nico Denz et Jan Tratnik de l'équipe Red Bull Bora Hansgrohe. Mais à la fin, Mats Pedersen défie le mieux les conditions et remporte l'arrivée au sprint. Le Norvégien Torstein Traen s'empare aussi du maillot jaune après que le peloton a tout contrôlé aujourd'hui. Oui, nous regardons comme toujours l'ensemble des événements avec notre directeur d'équipe sur place et pour cela, je salue comme toujours Ralf Denk.
Bonjour, bonsoir à Rosenheim.
Oui, tu l'as dit. Bonsoir. Nous sommes un peu en retard aujourd'hui, ce qui m'amène à 2 questions. Hier déjà, le long transfert. Et où est-ce que je te trouve aujourd'hui pour que nous enregistrions un peu plus tard que d'habitude?
Oui, hier, où nous avons fait le podcast avant le transfert, mais aujourd'hui, Internet était si mauvais à l'arrivée qu'il était impossible de téléphoner ou de parler. Et c'est pourquoi nous avons d'abord effectué le transfert. Nous venons d'arriver à l'hôtel et ma première tâche est maintenant le podcast.
C'est tout à ton honneur, Ralf. Les auditeurs vous pardonneront sans aucun doute. Et oui, si ce n'est pas possible sur place car la connexion est trop mauvaise, alors nous le ferons un peu plus tard. Nous sommes flexibles. L'essentiel est que vous ayez quelque chose à écouter. 2e question que je dois rattraper depuis hier, c'était la question d'un auditeur. Il disait que Tim de Beek n'avait pas l'air très en forme au début de l'étape. Hier, tu disais que tu n'avais pas encore pu lui parler. Y a-t-il eu du nouveau ou peux-tu nous en dire plus?
Non, tout va bien. Bien sûr, tout le monde a eu du mal hier, après les 2 étapes d'ouverture difficiles de samedi et dimanche. Mais tout est en ordre et il peut faire son travail ici dans la course. Donc, aucune raison de s'inquiéter.
Parfait. Donc, le directeur de l'équipe nous rassure. Oui, Ralf, penchons-nous sur l'étape d'aujourd'hui. Nous en avons parlé hier, les échappés étaient présents très très tôt. 35 coureurs se sont formés à l'avant, dont 2 de vos sommes, Nico Denz et Jan Tratnik. Raconte-nous un peu, c'était prévu comme ça ou c'est arrivé plus ou moins par hasard?
La situation de course s'est déroulée exactement comme je l'avais prédit hier. Un grand groupe va se disputer la victoire d'étape et le cas échéant, le maillot jaune qui était encore sur les épaules de Tadej Pogacar hier ou qu'il portait ne sera pas défendu à tout prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'était jamais sous-optimal pour nous. Nous étions représentés par Nico Denz et Jan Tratnik dans la grande échappée de plus de 30 coureurs. Nous aurions souhaité que Maxim van Gils soit présent. C'était notre objectif clair lors de la réunion de ce matin. Mais on voit bien que ce n'est pas à la carte. Tout dépend de qui peut rouler ou non. Maxim van Gils a gagné une étape très similaire à celle d'aujourd'hui au Critérium du Dauphiné il y a 3 semaines. Il était l'un des grands favoris des bookmakers pour cette étape et personne ne voulait l'avoir avec soi. C'est pourquoi c'était en fait mission impossible. Nous en avons reparlé juste à l'instant sur le chemin du retour. Chaque fois que je me levais de ma selle, j'avais 10, 20, 30 gars dans ma roue. Donc pour lui, c'était impossible de partir dans l'échappée aujourd'hui. Beaucoup s'y opposaient et c'est pour ça qu'il n'y était pas. Et c'est peut-être pour ça que le résultat n'est pas celui qu'on espérait.
D'accord, donc le plan était différent. Mais vous avez réagi. Jan Tratnik est parti devant dans l'avant-dernière ascension. Quelle était l'idée derrière ça? Utiliser les 2 coureurs comme vous le faites pour qu'ils puissent s'échapper et sinon que Nico Denz ait plus de force pour la suite? Ou quel était le plan?
L'équipe Lidl Trek était représentée à l'avant par trois coureurs très forts et surtout par le vainqueur Mads Pedersen. Battre Mads Pedersen au sprint, impossible. C'est pourquoi le dernier espoir résidait dans une échappée. Et c'est ce que Jan Tratnik a tenté. Malheureusement, il avait Mathias Vasek de Lidl Trek avec lui, mais il n'a pas pris de relais. Cela signifie qu'il a dû faire la majeure partie du travail seul et c'était donc une tentative, mais c'était finalement assez désespéré car trop peu de coureurs ont suivi Jan Tratnik quand il a attaqué. Et puis, il n'y avait aucune harmonie dans ce groupe de trois car Mathias Vasek de Lidl Trek attendait en quelque sorte son leader. Il a refusé de prendre les relais et donc c'était une tentative vouée à l'échec, mais il fallait essayer. Si on n'essaie pas, si on sprint vers la ligne d'arrivée avec eux, Mads Pedersen, alors on sait qu'on finira probablement deuxième. Et c'est pourquoi je peux à la fois Jan Tratnik et Nico Denz, qui était le deuxième coureur de notre groupe de tête, qui s'est battu comme un lion dans la dernière ascension contre les solides spécialistes des moyennes montagnes. Malheureusement, il n'a pas réussi à suivre le rythme, mais je ne peux rien lui reprocher, lui qui est plutôt un rouleur pour nos deux coureurs dans l'échappée. Il n'y avait tout simplement rien de mieux à faire aujourd'hui.
Oui, ce qui arrive quand on aborde la dernière ligne droite avec Mads Pedersen, nous l'avons vu aujourd'hui, à mon avis, il n'a même pas fait le sprint parfait car il a démarré assez tôt, mais personne n'avait la moindre chance de rester dans sa roue. Puisque tu viens de le dire, Lidl Trek n'a pas pris les relais car ils étaient trois et savaient qu'ils avaient Mads Pedersen. C'est une tactique valable et intelligente, non ? Dirais-tu qu'ils ont tout fait correctement et qu'ils ont vraiment tout donné aujourd'hui ? Ou dirais-tu, d'accord, un peu de soutien aurait peut-être été apprécié ?
Non, nous aurions fait exactement la même chose si les rôles avaient été inversés. Ce sont des mythes cruels ou des jeux tactiques que l'on peut jouer dans le cyclisme. Ils ont joué le sprint, les gars de chez Lidl Trek. Ils avaient un plan clair et c'est pourquoi ils devaient sécuriser les échappées. Ils l'ont fait avec Vasek, mais ils n'ont pas roulé. C'est habituel et nous ne leur en voulons pas. Ils ont mérité leur victoire aujourd'hui.
Très bien. Un mot pour finir sur le nouveau porteur du maillot jaune, Thorstein Train de l'équipe Uno X Mobility. Peux-tu nous en dire plus sur lui, Krudila? Il a un passé difficile quand il a reçu un diagnostic de cancer et le voilà en jaune. Donc, il y a deux questions à ce sujet. D'abord, c'est sans doute une histoire incroyable pour lui. Et ensuite, on a eu l'impression que Pogacar n'avait pas forcément envie de le porter pendant 3 semaines et qu'il était prêt à le céder.
Oui, comme mentionné au début, c'était la stratégie de Tadej Pogacar et de son équipe de ne pas défendre le maillot jusqu'au bout. Ils ne l'ont pas fait, que ce soit maintenant Thorstein Train, j'espère l'avoir bien prononcé, qui le porte. Me réjouis parce que premièrement, il a déjà porté le maillot de leader pendant un long moment lors de la Vuelta l'an dernier. Il sait ce que ça fait. Il a de l'expérience. Deuxièmement, oui, il a vraiment eu un cancer et dans une carrière, ce n'est pas si simple tout ça à surmonter, puis à récupérer et ensuite à revenir. Donc, certainement un grand battant, même si je ne le connais pas personnellement. Et puis, c'est une équipe norvégienne où il n'y a que des Norvégiens et des Danois. Ils ne prennent pratiquement aucun étranger, à part ces deux nations. L'équipe a une grande fierté nationale tournée vers la Norvège et le Danemark. C'est seulement leur première année dans le World Tour. Ils sont montés l'an dernier et c'est évidemment un grand succès pour l'équipe de porter le maillot jaune. Je connais personnellement le manager Thor Hushovd. Je suis aussi très heureux pour lui. C'est une chose formidable. Et oui, le cyclisme profite aussi de ce genre d'histoire.
Oui, quand on voit ça, 8 minutes d'avance, c'est un grand battant. 8 minutes sur Tadej Pogacar, tout de même, entre les deux, ils en ont placé deux autres, mais est-ce assez pour dire que tout est normal ou est-ce finalement assez conséquent?
L'avance devrait tenir quelques étapes maintenant. Donc demain, nous y reviendrons. C'est probablement le premier sprint. Mais je pense que les 8 minutes tiendront même lors de l'étape du Tourmalet. Et je ne m'attends pas à ce que le porteur du maillot jaune soit dans le top 5 à Paris, mais il portera le maillot pendant quelques jours.
Merveilleux, nous allons regarder ça. Ralph, j'ai besoin d'un ou deux mots sur ce qui se passe chez vous. Je veux dire, ce sont des vagues de chaleur brutales. J'ai vu que 40 degrés étaient affichés sur de nombreux thermomètres. Les coureurs sont donc marqués. J'ai aussi entendu dans une interview de Nico Denz qu'il y a même eu une pénalité pour vous hier pour avoir tendu des sacs de ravitaillement là où ce n'était pas autorisé, et ce, malgré la chaleur. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce sont des conditions extrêmes, n'est-ce pas?
Oui, en effet, il fait très très chaud. Also, normalement, vous ne pouvez donner les petits sacs que certains connaissent peut-être, contenant des bouteilles, des barres et des gels, que dans certaines zones de ravitaillement. En principe, tu n'as pas le droit de passer les sacs depuis la voiture. Avec la chaleur actuelle, les sacs sont souvent remplis de glace, comme celle qu'on peut acheter à la station-service. Cette glace est mise dans des bas pour femmes et ces bas laissent passer le froid, l'eau froide et on se met ça dans la nuque en roulant. Ça permet de faire baisser la température corporelle. Et oui, nous avons passé ces petits sachets ou sacs depuis la voiture. Ce n'est pas autorisé, on ne peut le faire que depuis l'extérieur, au bord de la route, dans certaines zones. Cela nous a valu une amende. La règle a de toute façon été annulée par l'Union cycliste internationale et l'organisateur, car c'était devenu une pratique courante pour toutes les équipes et personne ne respectait le règlement. Tout le monde avait pour seul intérêt de refroidir au mieux ses coureurs. Je suis curieux de voir si les 500 francs suisses nous seront remboursés. Je ne le sais pas encore.
Ça doit probablement être dans la caisse de l'équipe pour certains, car en
Oui,
pratique,
exactement.
tout le monde l'a fait. Bon, quelles sont les options si ça devient encore plus extrême? J'ai entendu Florian Lipovitz juste avant, les coureurs en discutent aussi entre eux, bien sûr. Avez-vous en tant qu'équipe des moyens d'intervenir, que ce soit un autre horaire de départ, des raccourcis de parcours, etc.? Est-ce envisageable pour les prochains jours ou comment vois-tu les choses?
Oui, il existe une sorte de syndicat des coureurs. Le syndicat des coureurs est en contact avec le syndicat des équipes, avec l'organisateur et avec la Fédération mondiale qui contrôle le règlement ici, le règlement établi. Et bien sûr, il existe un protocole pour les intempéries. Il n'y a actuellement pas encore de protocole chaleur. Peut-être que cela sera introduit un jour et il faudra voir quelles seront les mesures. Changer quelque chose du jour au lendemain, raccourcir ou décaler les heures de départ, cela entraîne évidemment une sacrée pagaille. Cela implique la logistique des équipes, mais aussi les temps de diffusion à la télévision, etc. Donc je ne pense pas qu'on puisse changer cela du jour au lendemain. Savoir si on va changer ça à moyen ou long terme, ce n'est, je pense, pas le bon moment pour en discuter pendant le Tour de France. Pour l'instant, on peut juste espérer qu'il fasse un peu plus frais et qu'ils aient une stratégie de refroidissement parfaite pour les coureurs. Car il faut savoir une chose, le refroidissement ne s'arrête pas après l'arrivée, car le corps est tellement surchauffé. Qu'il doit être refroidi pour lancer le processus de récupération. Cela signifie que les chambres où dorment les coureurs doivent être climatisées. Nous avons en plus nos propres climatiseurs avec nous. Après la course, mais ils prennent des bains de glace pour refroidir tout l'organisme, tout le corps. En plus de toute la stratégie de refroidissement que nous avons déjà, pendant la course. C'est un effort énorme pour le personnel, un effort supplémentaire, mais nous faisons le maximum possible pour faciliter la vie des coureurs autant que nous le pouvons.
Oui, je peux déjà vous donner un avant-goût. Nous y reviendrons non seulement sur tout ce que vous faites, mais aussi sur la façon dont les coureurs et les autres se préparent. Il y a beaucoup de choses derrière telle chose, derrière tout ça, mais ce serait trop long pour le moment. D'autant que je voudrais aborder un autre point qui a été annoncé, à savoir que Jai Hindley a prolongé sur le long terme, comme on dit, avec vous. Peux-tu nous en dire plus ? Cela arrive justement alors qu'il court le Tour de France pour vous. C'est un candidat que vous étiez devenu comme une seconde famille pour lui. Il a gagné le Giro 2022 pour vous. C'est un gars qui est devenu l'un de vos coureurs les plus importants, n'est-ce pas ?
Oui, et ce, sous plusieurs angles. Premièrement, toujours un grand respect et aussi de la gratitude pour sa première victoire en grand tour pour l'équipe. Il a gagné le Giro d'Italia pour nous en 2022. Nous n'avions jamais remporté de course de 3 semaines auparavant. Il a été le premier, puis Primoz Roglic a été le deuxième en 2024 à gagner le Tour d'Espagne pour nous, mais c'était un véritable tournant dans l'histoire de l'équipe. Ensuite, humainement, c'est un type incroyablement bien sur qui on peut compter à 100%, qui aime son sport et qui donne toujours tout. Et puis, il est naturellement doté d'un talent que très peu de gens au monde possèdent, n'est-ce pas? Gagner un grand tour, finir 4e du Tour d'Espagne l'an dernier, 3e du Tour d'Italie cette année, ce sont vraiment de très, très bons et grands résultats sur des courses de 3 semaines. Et il est aussi très polyvalent. Il peut courir en tant que leader ou bien en tant qu'équipier. Et ça, on ne voit pas ça souvent, ceux qui peuvent remplir deux rôles. C'est pourquoi nous avons conclu un accord avec lui et je suis ravi de la façon dont il s'y est tenu. Il court le Giro d'Italia, il ne signera rien avant, même s'il reçoit des offres d'autres équipes, et nous discuterons après le Giro d'Italia. C'est ce que nous avons fait, et cela n'a pas pris longtemps, puis nous nous sommes serré la main, et maintenant, l'aventure continue pour les prochaines années.
Tu l'as dit, toi, les prochaines années, là, ceux qui nous écoutent Phénomaran souvent, ou qui lisent car là, les communiqués, savent que vous ne donnez jamais de date précise. Pourtant, je dois demander, sur le long terme, c'est forcément plusieurs années.
C'est pour plusieurs années et il y a une raison pour laquelle nous ne le disons pas, car dans le dernier paragraphe de la plupart des contrats, il est écrit que les deux parties conviennent de garder le contenu confidentiel et la durée du contrat fait partie du contenu, c'est pourquoi je n'en parle pas.
C'est entendu.
Et il continuera tout de même à vous aider un moment, entre autres demain, même c'est pour moi, à première vue, tu l'as déjà évoqué plus tôt, ne semble pas présenter beaucoup de difficultés, mais plutôt une opportunité pour les sprinteurs qui, bon, mis à part Pedersen aujourd'hui, qui est un modèle hybride, mais les autres sprinteurs pur sang attendent probablement une chance demain, n'est-ce pas ?
Absolument. Et ils n'ont vraiment pas eu la tâche facile sur le Tour de France cette année. Ils ont eu un début très difficile. Ils ont dû faire ce contre-la-montre par équipe éprouvant. Ils ont fait la difficile étape de Barcelone dimanche. Ils ont souffert hier. Pardonnez-moi l'expression, mais les sprinteurs ont souffert comme des bêtes, car c'était vraiment, vraiment dur. Certains sont arrivés juste avant la limite de temps hier et aujourd'hui, encore rien pour eux. Et demain, très probablement, le premier sprint. Et je pense que les équipes qui espèrent quelque chose feront tout pour qu'il y ait un sprint. Cela signifie qu'aucune échappée n'ira au bout, mais que le peloton arrivera groupé dans la dernière ligne droite demain et le plus rapide gagnera.
Cela signifie pour vous protéger Remco et Lipovic et veiller à bien suivre. Ou avez-vous une mission précise ?
Nous avons vraiment une mission demain. Il ne faut jamais dire qu'on n'a pas de mission en course, car on peut tomber à chaque mètre et il faut toujours rester concentré et attentif. Mais avant tout, nous serons soulagés demain une fois la marque des 3 km franchie, là où le temps est pris pour le classement général, si nous n'avons été impliqués dans aucune chute jusque-là. Et nous espérons pour demain une journée sans chute et relativement agréable, car la grande étape des Pyrénées, jeudi, nous attend déjà.
C'est merveilleux et nous nous reparlerons à ce moment-là. Amch, pour aujourd'hui, merci beaucoup et passez une excellente soirée en France.
Avec plaisir. Et salutations et également une bonne soirée en retour à Ozenheim.
C'était l'édition actuelle de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et DeepN Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine édition.